Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Les États-Unis, qui ont franchi lundi la barre des 80 000 décès, ont enregistré 830 morts supplémentaires dues au coronavirus en 24 heures, selon l'université Johns Hopkins. Le bilan quotidien passe ainsi pour la deuxième journée consécutive sous la barre des 900 morts. Il est toutefois trop tôt pour dire si ce ralentissement dénote une réelle tendance. Il y a plus de 1,34 million de cas aux États-Unis qui, a dit le président américain Donald Trump, ont développé une capacité de tests de dépistage inégalée dans le monde, soulignant que 9 millions de tests avaient été réalisés dans le pays. En Europe, des dizaines de millions de Français et d'Espagnols ont commencé lundi à retrouver une partie de leur liberté de mouvement, mais la crainte d'une deuxième vague de la pandémie reste entière. Cependant, appel à continuer à privilégier le télétravail, port du masque obligatoire dans les transports et distanciation sociale. L'OMS a une nouvelle fois appelé à exercer une extrême vigilance au moment de lever les restrictions. En Corée du Sud, où l'épidémie avait été jugulée, 35 nouveaux cas ont été recensés lundi. La Chine a fait état ce mardi d'un seul nouveau cas de contamination d'origine importée, un reflux dans la contagion après un rebond d'une trentaine de cas enregistrés en deux jours. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé hier un assouplissement des mesures de restrictions anti-Covid-19, a commencé par une réduction du couvre-feu nocturne de 21h à 5h au lieu de 20h à 6h à partir de mardi et la réouverture des lieux de culte. Dans une allocution télévisée, M. Sall a affirmé la nécessité d'apprendre à vivre en présence du virus et d'adapter les comportements individuels et collectifs. Des expressions d'impatience commençaient, selon l'AFP, à poindre dans le pays sous état d'urgence depuis le 23 mars. Il y a au Sénégal 19 décès pour 1886 cas. Au Burkina Faso, au moins 4 soldats burkinabés ont été tués et 4 autres portés disparus hier lors d'une attaque djihadiste à Kankan-Fogoul, localité du nord située près de la frontière du Niger, on dit à l'AFP des sources sécuritaires. Au Cameroun, un jeune maire a été assassiné par des rebelles indépendantistes dans le sud-ouest, théâtre d'un conflit meurtrier entre groupes armés séparatistes anglophones et forces de sécurité, a affirmé lundi le gouverneur de la région. 5 marins, dont un équato-guinéen et 3 russes, ont été kidnappés dans l'attaque de 2 navires à l'aube du 9 mai dans les eaux territoriales équato-guinéennes, ont annoncé hier la radio d'État et l'ambassade russe. 2 autres marins étrangers ont été blessés par balle. Le président de Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, a ouvert le chantier d'une réforme de la Constitution lundi en décidant la mise en place d'une commission à cet effet. La CDAO avait insisté sur la nécessité d'une réforme constitutionnelle en annonçant fin avril reconnaître M. Embalo comme président. Son adversaire, Domingos Simoes Pereira, conteste toujours les résultats du second tour de la présidentielle du 29 décembre. Le président de la Banque africaine de développement, le Nigérian Aki Nwumi Adesina, disculpé maintenant, selon un rapport du comité d'éthique des conseils d'administration de la BAD, dont l'AFP a reçu une copie hier. Il était accusé notamment de comportements contraires à l'éthique, enrichissement personnel et favoritisme. Le comité a conclu que la plainte ne reposait sur aucun fait objectif et solide. Donc, il a été disculpé. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, au micro, Idrissa Sedoudia. La suite de nos informations. Au Mali, les députés ont élu hier Moussa Timbine au perchoir de l'Assemblée nationale. Il avait été déclaré battu dans les résultats provisoires du second tour des législatives à Bamako. Mais la Cour constitutionnelle a inversé une trentaine de résultats, dont une dizaine au profit de candidats du parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali. Eric Manirakidza.
Moussa Timbine, 46 ans, est un fidèle du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été élu lundi président de l'Assemblée par 134 voix sur les 147 députés du Parlement. Son adversaire Moussa Mara, ancien Premier ministre, a obtenu 8 voix. C'est le président de l'Assemblée qui assume la présidence en cas de vacance ou d'empêchement définitif du chef de l'État. Titulaire d'une maîtrise en mathématiques physiques, ancien leader estudiantin et ancien enseignant, Moussa Timbine a fait quasiment toute sa carrière politique au sein du RPM. Il était premier vice-président de l'Assemblée dans la législature précédente. Connu pour son langage direct, ce dogon du centre du Mali pourrait, selon son entourage, s'impliquer davantage dans la résolution de la crise dans le centre du pays, théâtre de violences intercommunautaires meurtrières. Le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, enlevé alors qu'il faisait campagne avant les élections, a été réélu dès le premier tour. Pendant la session du Parlement hier, il a été considéré comme absent. Son parti, l'Union pour la République et la Démocratie, compte 19 sièges. Les résultats définitifs des législatives ont entraîné plusieurs jours de vives contestations dans les rues de Bamako, Sikasso et Kai.
La République démocratique du Congo a franchi la barre des 1000 cas déclarés de coronavirus. Pour sa part, le Congo-Brazzaville voisin enregistre une hausse significative au moment où il envisage un déconfinement progressif. La RDC compte 41 décès et 141 guérisons. Nathalie Barge.
Kinshasa concentre la majorité des cas avec pour nouvel épicentre la zone de santé de la prison militaire de Ndolo qui a enregistré 188 des 938 cas dans la capitale. Médecins sans frontières soigne des patients dans un hôpital de Kinshasa en coordination avec l'équipe nationale de la riposte et des experts médicaux chinois sont attendus le 12 mai dans la capitale. Un nouveau cas a été signalé à Bukavu, dans l'est du pays, où le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a plaidé pour un approvisionnement en urgence de tests. Au Congo-Brazzaville voisin, le nombre de cas est passé de 288 à 333 entre le 8 et le 10 mai, avec 11 décès et 53 guérisons selon l'OMS. Le Premier ministre Clément Mwamba doit soumettre un plan de déconfinement progressif qui pourrait être mis en œuvre à compter du 16 mai.
Au Niger, les autorités annoncent la réouverture des écoles fermées pour cause du Covid-19 au 1er juin. Après un pic à la mi-avril, le pays enregistre de moins en moins de cas positifs au virus. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
À la fermeture des écoles le 20 mars dernier, le taux d'exécution des programmes scolaires tournait autour de 50 à 75% selon le ministre des Enseignements supérieurs Yahuza Sadissou. À compter du 1er juin prochain, moins de 2 mois de cours suffiront pour les finaliser.
Après différentes évaluations, nous aurons besoin de 45 jours pour finaliser les programmes de l'année. Ainsi, les cours vont s'étaler du 1er juin au 15 juillet 2020. Après interviendront les différents examens, le BEPC, le baccalauréat, le BTS, etc. Les dates précises pour ces examens vont être communiquées ultérieurement.
La réouverture des classes le 1er juin sera accompagnée du respect au niveau de tous les établissements des mesures hygiéniques de prévention du Covid-19. À la date du 10 mai, le Niger compte 821 cas confirmés avec 46 décès et 624 guérisons. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Israël, la prestation de serment du nouveau gouvernement prévue initialement mercredi a été reportée d'un jour pour ne pas coïncider avec la visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Claire Morin-Gibourg.
Le gouvernement d'union entre le premier ministre sortant Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz prêtera serment jeudi. Ce report est motivé par la visite de M. Pompeo prévue ce mercredi, selon une source au sein du Likoud, le parti de M. Netanyahou. Le secrétaire d'État américain doit rencontrer MM. Netanyahou et Gantz pour évoquer la pandémie du nouveau coronavirus, l'influence régionale de l'Iran et le plan américain pour un règlement du conflit israélo-palestinien. Ce projet prévoit notamment l'annexion par Israël de pans de la Cisjordanie, qui doit être discutée à Jérusalem à partir du 1er juillet, selon l'accord de gouvernement Netanyahou-Gantz. En se rendant à Jérusalem, M. Pompeo devient l'un des premiers hauts responsables d'une grande puissance à renouer avec les déplacements internationaux malgré la pandémie de Covid-19.
La Minute Éco, Nanik Talani.
L'Algérie a décidé d'interdire l'importation des pièces destinées aux usines de montage de voitures. L'interdiction arrive quelques années après le lancement d'une industrie automobile censée réduire la facture des importations de véhicules. Cette décision va mettre un coup d'arrêt à la jeune industrie automobile algérienne qui importait les voitures en kit prémonté. L'Égypte a reçu une aide d'urgence du FMI d'environ 2,8 milliards de dollars pour combattre l'impact économique du Covid-19. Le FMI souligne que le Caire avait réussi à redresser son économie de façon tout à fait remarquable avant l'impact du coronavirus en exécutant un programme de réforme soutenu par le mécanisme de crédit élargi du fonds qui avait permis de corriger les importants déséquilibres internes et externes. Pour terminer, la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti annonce une amélioration de ses flux de trésorerie au premier trimestre, mais a perdu 11 000 onces de production en raison d'arrêt des exploitations provoquées par le coronavirus.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La saison de football du Burundi doit reprendre le 21 mai. Plus d'un mois après la suspension de la dernière compétition de football en Afrique, cette décision a été prise par les autorités pour permettre la tenue de rassemblements politiques dans les stades avant les élections générales prévues pour le 20 mai. La Fédération burundaise de football a également annoncé que les demi-finales et la finale de la Coupe nationale se dérouleront à partir du 13 juin. Certains pays africains comme la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, l'Angola ou encore le Kenya ont définitivement arrêté leur saison 2019-2020. D'autres comme le Mali, le Maroc espèrent continuer dans les mois à venir. En Espagne, les joueurs du Real Madrid ont repris l'entraînement hier sous la direction du coach Zinedine Zidane. Après deux mois de pause forcée, les joueurs étaient au maximum 6 sur le même terrain. Ils ont été divisés en deux groupes et sur plusieurs terrains et ont effectué leurs premiers exercices individuels avec et sans ballon. À cette occasion, l'international belge Eden Hazard a retrouvé les terrains d'entraînement trois mois après une blessure à la cheville droite qui a nécessité une intervention chirurgicale. Pendant le confinement, aucun joueur madrilène n'a souffert de symptômes du coronavirus, mais Zidane est privé du jeune attaquant serbe Luka Jovic, victime d'une fracture au talon droit vendredi dernier. Au Portugal, au moins 8 cas de footballeurs contaminés par le nouveau coronavirus ont été signalés depuis le week-end dernier parmi les effectifs de 4 clubs portugais de première division. Le champion en titre Benfica a annoncé que le milieu offensif portugais, David Tabarez, a été testé positif lors d'un dépistage réalisé vendredi. Le joueur est asymptomatique et en quarantaine a précisé le club lisboète. Samedi, le Vitória Guimarães a confirmé la détection de 3 cas. Le gouvernement a autorisé le championnat de première division à reprendre à partir du dernier week-end de mai à huis clos et sous réserve de l'approbation d'un protocole sanitaire. En Angleterre, City Football Group, la société émiratie qui possède le champion d'Angleterre en titre Manchester City, a annoncé l'acquisition du club de deuxième division belge de l'Omel SK. Ce dernier devient le 9e club possédé par la holding. En novembre dernier, ce groupe a racheté le club indien de Mumbai City FC, New York City FC ici aux États-Unis, le Melbourne FC en Australie, les Yokohama Marinos au Japon, le Girona FC en Espagne, le club Atlético Torque en Uruguay et le Sichuan Jianyu FC en Chine sont les autres clubs contrôlés par ce groupe.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sembia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet et principal allié du président Félix Tshisekedi, saura mercredi s'il bénéficie de la liberté provisoire ou si son procès se poursuivra en prison. Il est accusé de détournement de près de 285 millions de dollars américains. Son procès a été ajourné au 25 mai, peu après son ouverture hier à la prison de Makala à Kinshasa. Pour une analyse, Eddie Isango a joint à Kinshasa maître Willy Wenga, avocat près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe.
La première journée d'hier lundi a été consacrée à la présentation des prévenus et des préventions mises à leur charge, mais aussi les prévenus ont profité de l'occasion pour introduire une demande de mise à liberté provisoire ainsi que la remise de la cause à une date ultérieure pour compulser les dossiers et avoir accès aux pièces versées au dossier par le ministère public. À l'occasion, le tribunal a fait droit à leur demande de la remise de l'audience à la date du 25 mai prochain et dans l'entretemps aussi, le tribunal a ouvert la chambre de conseil à huis clos pour s'attendre à statuer sur le mérite de la demande de mise à liberté provisoire. Les parties prévenues par leurs avocats ont plaidé, ont avancé les raisons et les moyens pour obtenir la mise à liberté provisoire et la cause a été prise en délibéré pour un jugement à intervenir, lequel jugement soit ordonnera la liberté provisoire, soit rejettera la demande des parties prévenues.
L'une des raisons pour lesquelles les avocats de Vital Kamerhe ont demandé un temps, c'est parce qui n'ont pas eu accès aux documents du parquet. Mais qu'est-ce qui explique cela? Y a-t-il une raison pour ça qu'on ne leur pas ait donné ces documents avant?
Selon les avocats, ils n'ont pas eu accès aux documents parce que depuis que le ministère public a envoyé les dossiers en fixation, d'une part, les greffes du tribunal n'ont jamais ouvert, selon eux, par rapport à l'audience, et par rapport aux mesures de confinement de la Gombe, il se pose un problème d'accès aux greffes. Mais dans l'entretemps, le tribunal a estimé que le parties peuvent prendre des dispositions pour vérifier les pièces aux greffes, lesquelles greffes sont ouvertes. Et de telle sorte que la partie civile a considéré les moyens avancés par la partie prévenue comme un moyen dilatoire. Mais en définitive, le tribunal a accordé la remise pour que la partie prévenue puisse compulser les dossiers aux greffes du tribunal.
Vital Kamerhe, dans sa défense, a dit qu'il n'était pas le seul superviseur des travaux des 100 jours du président Félix Tshisekedi et qu'il y avait un coordonnateur. Voudrait-il dire que l'on va appeler à la barre ces personnalités du neuf.
Attendons voir comment la suite de l'instruction va révéler les nécessités, les besoins de voir les personnes comparaître, soit comme renseignants, soit comme témoins. Cela sera jugé opportun par le tribunal et peut-être par les besoins de l'instruction ou de la défense.
Mais aussi, il a dit qu'il l'a fait tout au nom du président de la République.
Effectivement, à sa qualité de directeur du cabinet, il n'avait rien à prendre comme décision personnelle, mais on verra avec l'instruction, avec ses déclarations, qu'est-ce qu'il veut dire en disant qu'il n'a pas posé les actes à son nom personnel, mais au nom du président de la République? C'est l'instruction qui va faire montrer si tel ou tel acte est à mettre à sa charge personnelle ou quel autre acte est à considérer comme étant un ordre reçu de la hiérarchie. Mais tout cela reste à vérifier lors de l'examen du fond de la cause, mieux de l'instruction de l'affaire elle-même, quant à ce qui concerne les préventions à examiner par le juge.
Maître Willy Wenga, avocat près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
Au Cameroun, les autorités ont décidé d'autoriser la réouverture des débits de boissons au-delà de 18 heures, levant cette restriction qui avait été prise le 17 mars avec d'autres pour limiter la propagation du COVID-19. Cette mesure d'assouplissement concernant les débits de boissons suscite des incompréhensions au moment où le pays a dépassé la barre des 2000 cas confirmés. Mais pour les entreprises brassicoles, c'est un soulagement. Mohamedou Humfa fait le point.
Le 30 avril dernier, le Premier ministre camerounais a annoncé une série de mesures d'assouplissement en vue de soutenir certains secteurs en difficulté. Parmi celles-ci, l'ouverture au-delà des 18 heures, des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs, avec obligation pour les clients et usagers, je cite, de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque de protection et la distanciation sociale. Une décision qui suscite néanmoins des incompréhensions alors que les écoles restent fermées et le pays a franchi la barre des 2000 cas confirmés de Covid-19. Anne Fégande Noah, porte-parole du PCRN, un parti politique d'opposition.
C'est une manière, une approche un peu irresponsable lorsqu'on sait que le gouvernement devrait en priorité protéger les populations. Lorsqu'on va dans un bar, on ne boit pas avec un masque.
Pour les professionnels de santé, c'est une décision à risque, susceptible de rallonger la chaîne de transmission du virus. C'est ce que pense le docteur Roger Itois, médecin de santé publique.
Il y aura forcément des conséquences en nombre de patients contaminés, en termes de mortalité et également en termes de surcharge des hôpitaux. Donc, nous en remettons un peu à la fatalité pour voir ce que ça va donner.
Mais les exploitants de débits de boissons assurent qu'ils prennent des mesures pour limiter la transmission du virus. C'est ce que nous a expliqué Valérie Tendier, coordonnateur du CINEDBOC, le syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun.
À l'entrée de chaque établissement, nous avons installé des points d'eau avec du savon. À l'intérieur, nous avons mis des gels hydroalcooliques. Nous avons instauré le port des masques obligatoires à nos personnels. Nous avons exigé également le port des gants. Nous avons, pour la distanciation, demandé à chacun de nos membres de limiter le taux de places assises. Nous avons aussi demandé aux promoteurs d'établissements de loisirs d'utiliser à toutes les entrées des thermoflash.
Pour de nombreux observateurs, le gouvernement a plus que jamais besoin des taxes générées par les débits de boissons et le commerce. Valérie Ntendi.
Les impôts, c'est 2200 milliards de budget par an. Sur ces 2200 milliards, la filière brassicole représente 600 milliards d'impôts. Si on fonctionne à 5%, sur les attentes mensuelles de 50 milliards, nous ne pourrons produire que 2,5 milliards.
La consommation de la bière est une véritable religion pour de nombreux Camerounais. Dans son rapport d'activité, la Société anonyme des brasseries du Cameroun affirme avoir vendu 4 655 000 hectolitres de bière en 2018 et donc une importante rentrée fiscale pour le gouvernement de Yaoundé.
L'Afrique du Sud, en confinement depuis 6 semaines, a commencé il y a quelques jours à donner un peu plus d'air à sa population et à son économie. Le professeur Salim Abdoulkarim, à la tête du comité d'experts qui conseille le gouvernement sud-africain, pense que ce confinement était et reste pour l'instant nécessaire pour ralentir la progression de la pandémie de coronavirus, mais qu'il ne l'évitera pas. Reportage de notre correspondante Patricia Huon.
Les frigos sont vides, la table de billard est recouverte d'une bâche de plastique, le bar n'a plus vu de clients depuis plus de 6 semaines. Un drame financier pour la propriétaire de cette taverne à Clifton, un quartier pauvre de Soweto, au sud de Johannesburg.
Nous vendons des bières tous les jours, mais en ce moment, nous ne pouvons pas à cause du coronavirus et du confinement. Ils disent que quand les gens sont saouls, ils sont incontrôlables. Mais je pense que ce n'est pas juste. Je pourrais vendre une bière et dire à la personne de rentrer la boire chez elle.
En Afrique du Sud, avec le confinement, a été décidée l'interdiction de la vente d'alcool et de cigarettes. Si certaines mesures ont été relâchées au début de ce mois, celles-là ont été maintenues, avec pour conséquence notamment une perte de revenus fiscaux importante pour le pays et l'apparition d'un marché noir. Les vendeurs se déplacent à domicile et les prix ont flambé.
Je peux trouver du vin, mais le vin, c'est trop cher. Une bouteille qui se vend 100 rands dans le commerce coûte 350 à 400 rands. C'est pour ça que je préfère vendre des alcools forts, c'est mieux.
Concernant l'interdiction du tabac, les explications confuses de la ministre de la Gouvernance, Nkosi Asanas Lamini Zuma, selon lesquelles les fumeurs partageraient leurs cigarettes et risqueraient ainsi de se contaminer, n'ont pas convaincu. Elles ont même généré une avalanche de mimes et de chansons parodiques sur les réseaux sociaux. Mais une majorité d'experts médicaux s'accordent néanmoins sur le fait que l'interdiction de l'alcool aurait-elle permis pour l'instant de libérer de la place dans les services d'urgence. C'est l'opinion de Charles Parky, directeur du département sur l'alcool et la drogue du Conseil sud-africain de la recherche médicale.
Beaucoup de gens vivent dans des quartiers surpeuplés. Après quelques verres, ils sortiraient et ça augmenterait grandement le risque de transmission communautaire. Et puis, en Afrique du Sud, beaucoup d'admissions dans les services de traumatologie, plus de 40% sont des personnes qui étaient sous l'influence de l'alcool.
Beaucoup, faute de moyens, se sont résignés à arrêter tabac et alcool. D'autres sont prêts à payer le prix fort. D'autres encore se sont mis à préparer leur propre liqueur à la maison. Une association de propriétaires de bars a envisagé de porter plainte des fabricants de cigarettes également, mais ils ont finalement décidé de privilégier les discussions avec le gouvernement. Mais combien de temps cette interdiction pourra-t-elle être maintenue alors que le pic de l'épidémie en Afrique du Sud n'est prévu que vers le mois d'août? Patricia Huon, Johannesburg pour VOA Afrique.
Déterminé à aller de l'avant avec le lancement du premier satellite tunisien, Telnet Holding prévoit de lancer le nanosatellite Challenge One en juillet prochain depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, assisté par des vaisseaux spatiaux russes Soyouz. Avec le montage de Lionel Gahima, Jacques Aristide nous en dit plus.
Il s'agit d'un projet conjoint entre Telnet et l'opérateur russe de lancement commerciaux, GK Launch Services. Il témoigne de l'importance que prend le marché spatial africain, qui vaut désormais plus de 7 milliards de dollars par an et continue de croître. De 1998 à 2019, 32 satellites ont été lancés par des pays comme l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, en partenariat avec la Russie ou la Chine. Le satellite Challenge One est presque entièrement fabriqué en Tunisie. Anissa Youssef, responsable des activités innovation du groupe Telnet.
La spécificité de Telnet, comme société tunisienne, c'est qu'on n'est pas en train d'acheter un satellite. On est en train de le développer. Tout cet intérêt-là, c'est de créer, on va dire, cette passerelle ou cette gateway entre la Tunisie et la Russie autour des nanosatellites de l'espace pour la technologie de l'IoT.
Challenge One vise à proposer une nouvelle approche dans le domaine des technologies d'information et de leur application pratique. Plus concrètement, le satellite pourrait notamment servir à activer à distance des centrales d'énergie solaire dans le Sahara ou encore au traçage du bétail qui traverse les frontières de la Tunisie pour se retrouver en Algérie ou en Libye. L'entrepreneur Mohamed Dafrika est le patron de Telnet.
Après la révolution, c'est un pays qui a réussi dans la démocratie. Il a montré pour tout le monde qu'un pays arabe et musulman, il peut réussir dans la démocratie. Mais dans le monde, les pays sont valorisés par deux choses, par la démocratie et par la technologie. Et justement, ce projet, il va donner une très bonne image de la Tunisie dans le monde et va aussi mettre en confiance les Tunisiens qu'on est capable d'arriver au top de la technologie.
Mohamed Dafrika ajoute que Telnet a choisi la compagnie russe GK Launch Services car son offre était moins coûteuse que celle des firmes américaines ou européennes.
Je pense que la Russie maintenant, elle s'intéresse à l'Afrique pour le développement économique. Et je pense que l'espace, ça peut être l'un des domaines dans lequel la Russie peut aider l'Afrique.
À Moscou, le politologue Pavel Luzin explique pourquoi de tels partenariats sont politiquement et économiquement bénéfiques pour la Russie.
La Russie veut être une grande puissance. La Russie veut convertir ses capacités en un statut politique mondial. La Russie veut avoir une influence sur un continent en pleine croissance et un développement comme l'Afrique.
Pavel Luzin croit que la Chine a les mêmes motivations que la Russie, soit une expansion économique mondiale et une influence dans les pays en développement. Le projet Challenge One, qui a coûté 1 million de dinars tunisiens, un peu plus de 350 000 dollars, doit notamment servir de base pour la création d'une constellation de 30 satellites.
Voilà. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.